Vous écoutez
RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes trois points de débat ce soir ?
La prestation du PSG, bonne par séquence. Pas toujours, notamment en première période. Il y avait des bonnes séquences de pressing. Le deuxième point, un secteur de jeu qui sera essentiel au PSG, c'est, comme d'habitude, je le dis souvent, c'est le milieu de terrain. Et je ne sais toujours pas quelle sera la bonne formule dans ce secteur de jeu-là, au milieu. Je suis toujours pas convaincu de comment ça marche et de quels seront les choix. Je suis convaincu juste d'une chose, c'est que Ganagay est le meilleur milieu de terrain du PSG. Ça, j'en suis convaincu. Et le troisième point, j'aimerais parler de Mbappé au moment où il risque de partir, parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas assez dit depuis qu'il est en France, c'est-à-dire depuis qu'on le connaît en fait, à quel point c'est un joueur extraordinaire et que s'il part, on va perdre un énorme joueur dans notre Ligue 1.
Kevin, tes trois points.
Bah écoute, moi je vais commencer par le troisième point de Daniel, parce que c'est mon premier, c'est Kylian Mbappé, qui on ne sait pas quel sera son avenir dans les prochains jours, mais en tout cas il aura été professionnel jusqu'au bout et personne ne pourra lui reprocher quoi que ce soit là-dessus. En deux, c'est le Paris Saint-Germain qui a été quand même assez serein ce soir. Ils ont été mis en difficulté sur une dizaine de minutes en deuxième mi-temps, mais on va dire ce pénalty refusé les a bien aidés parce que derrière ils ont déroulé sans trop de problèmes. Et en trois, c'est quand même le Angers et Gérald Batty qui sont le tube de l'été. Il y a toujours une équipe comme ça qui en était un peu la surprise.
Ça a déjà été Angers. Qui a jamais fait un tel début de saison sur les quatre premiers matchs, mais qui a déjà été dans le top 5, même un petit peu plus loin dans la première partie de saison.
Et plus largement, de toute façon, c'est multiplex que je fais avec grand plaisir sur RMC Sport depuis le début de la saison. Franchement, ils sont de grande qualité.
Oui, mais il y a un défaut. Parce qu'avant, le dimanche après-midi, franchement, avec tous les 0-0, on dormait vraiment bien. C'était la bonne petite sieste du dimanche. Il n'y a plus de sieste.
Mais tu sais, il faudra en reparler parce que pour moi, c'est vraiment qu'il y a une raison. C'est-à-dire que les équipes aujourd'hui, du milieu de tableau, voire de la deuxième partie de tableau, qui sont concernées par le multiplex, ont des entraîneurs qui sont intéressants, ont des philosophies intéressantes, et donc, ça procure un peu plus de spectacle et plus d'émotion.
29 août, 22h44. Vous démarrez là tranquillement, comme si c'était un petit match du dimanche soir bof, alors que là, les réseaux sociaux s'enflamment, Direct Studio est en feu. On a vu les premières minutes du génie, on a vu, voilà, c'est un jour historique pour la Ligue 1. Et là, vous même pas Messi dans vos trois points,
bah, c'est difficile où, là de dans les trois points parce qu'en
non,
fait,
mais nous, on est des gens sérieux.
Je te dis pas que j'étais pas attentif à son entrée et que j'espérais pas le voir vite et que j'ai regardé ses premiers ballons. Maintenant, dans l'analyse des trois points du match, il y a l'événementiel, qui est Messi et le circus autour, mais dans le match, il y a rien à retenir de Messi. On va pas me dire qu'on a vu ses bonnes premières prises de balles et tout, on sait ce qu'il fait avec un ballon quand même. On l'a tous vu. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ce soir ont découvert Lionel Messi, qui ne savaient pas qui c'était. Mais on sait quand même qu'il est capable de prendre un ballon, de le donner comme il faut, et voilà.
En tout cas,
la première accélération, c'est un peu, Mbappé est en fixette à vouloir lui redonner. C'était un peu ballot parce que je pense que cette action peut faire mieux que ça. Mais il a vraiment tellement voulu lui donner, c'était ouf. C'était
comme l'after est sur tous les coups, on va reparler de Messi tout à l'heure, mais comme l'after est sur tous les coups et qu'il n'a pas marqué, ce soir à Lionel Messi, c'est quand même une déception. On a d'ores et déjà sa première réaction.
La Ligue 1, elle est plus forte que la Liga et ça, j'en suis persuadé.
Voilà.
Attendons,
est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un mauvais match parce qu'il n'a pas marqué?
Non, mais c'est un scandale. Zéro geste défensif,
est-ce qu'on peut encore
zéro but, zéro passe décisive.
Est-ce qu'on peut encore faire du second degré?
Est-ce qu'on peut voir le nombre de kilomètres qu'il a couru?
Je ne suis pas sûr non plus qu'on puisse faire du second degré.
Nombre d'aller-retour qu'il a fait à l'échauffement. Pas sûr qu'il en ait fait 20.
Ah non, je pense que c'était objectivement le joueur qui a joué un match de Ligue 1 qui avait le moins couru avant de rentrer sur le terrain.
Mais qui avait déjà vu un échauffement de Messi?
Mais c'est pour
ça. Il est jamais remplaçant.
Oui, c'est vrai. Si, ça a pu arriver. Mais même quand il est titulaire, il ne s'échauffe pas comme nous.
Qui se souvient d'avoir vu Messi sur un bord de touche à s'échauffer?
Et est-ce que tu as déjà vu Messi à l'échauffement avant un match de 90 minutes?
Non plus, pas trop.
Le gars fait du jonglage, il fait semblant de faire les exercices que lui demande le préparateur physique. De toute façon, il a 5-10 minutes puisqu'on nous a expliqué qu'il observerait ses adversaires pour voir leur position du corps et leur position
sur le terrain. On reviendra quand même sur Messi un peu plus tard parce qu'il y a quand même eu il s'est passé des trucs à Reims absolument incroyables aujourd'hui. C'est-à-dire que alors certains vont dire qu'en termes de footixerie, on a battu des records. D'autres vont dire que c'est normal parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais enfin, c'est vrai que les supporters rémois étaient un peu très partagés aujourd'hui autour de l'engouement total.
L'interview d'un des responsables, je ne sais pas si...
Oui, du directeur commercial, Fabrice Hervé.
Non, mais son interview, tu l'as entendu, Daniel ? Où il dit qu'il espère que les supporters vont faire Messi, Messi.
Bah, il s'est fait bien allumer, quand même.
Non, mais là,
il s'est fait allumer par ses propres supporters.
Mais là, c'est pas sérieux, quand même.
Alors, en fait, le problème, c'est que on oscille entre deux choses qui sont un peu absurdes. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent trop en faire parce qu'ils sont uniquement dans le marketing, c'est génial pour la Ligue 1, machin... Et en face, tu vas avoir, c'est souvent pareil quand tu as des situations stupides, c'est que les extrêmes s'opposent. Et c'est que tu vas avoir des supporters adverses un peu trop bornés qui sont limite à espérer qu'ils se blessent ou qui sont limite à espérer que ça marche pas.
Pas sûr que beaucoup espèrent qu'ils se blessent.
Non, mais j'exagère mon dame, mais genre à limite, bah non, carrément, on va le siffler ou carrément, non, non. Juste, il faut être
honnêtement,
faut être
je pense mesuré, pas qu'il sera beaucoup sifflé.
Et mesurer l'événement que ça représente, parce que c'est un événement footballistique de le voir. Maintenant qu'un directeur marketing d'un club aille demander à ses supporters de faire ça, là, c'est un peu ouf quand même, quoi. Ouais. Là, c'est un peu dingo, quand même.
Après, attention, c'est un événement pour nous, en France, mais je peux te dire que,
Si Messi signe en Italie, je t'assure que c'est
non, pareil. Mais je parle par exemple pour les supporters de Barça.
C'est un événement c'est malgré un événement. Tout.
Aujourd'hui, c'est voilà. Un jour.
Oui. Nous, non, mais il faut pas.
Très difficile
pour
eux.
Il faut pas de la même façon dire ouais, c'est parce que c'est en France. Il faut que tout le monde se mette à genoux et tout. S'il va en Italie, je parle du pays que je connais le mieux des.
Non, mais c'est sûr. Et en Angleterre, alors. Regarde Ronaldo ce que ça a fait.
Un tel joueur
bien
arrive.
Sûr, normal.
Je peux t'assurer que ça fait l'événement de la même façon. Les médias s'y intéressent de la même façon, voire plus.
Oui.
Voire plus.
Bon, là, c'est pas mal.
Il va sur une pelouse, ça attirera la curiosité de la même façon.
Mais c'est pour ça
que tout le monde voudra le voir. Donc, il faut pas non plus se flageller, faire ce qu'on aime bien faire en France, c'est-à-dire se flageller en disant on est
ça
des footix.
Ça fait partie de la culture foot, hein.
Voilà.
Quand tu as des grands pays de football qui accueillent les joueurs à l'aéroport, qui suivent la voiture du mec jusqu'à l'hôtel, que ce soit en Turquie, au Portugal, ça existe aussi. Tu sais, la frontière entre le grand pays de football et la footixerie que nous on appelle comme ça un peu pour rigoler dans l'after, elle est quand même assez fine, hein, parce que dans les grands pays de foot aussi, il y a beaucoup de réactions qui sont disproportionnées, qui pourraient être considérées comme des réactions de footix en France, alors que non, pas du tout. Il y a aussi le football, ça déclenche des passions et les passions, elles ne sont pas toujours raisonnables.
Allez, on accueille Mathéo au 32-16, supporter du PSG. Salut Mathéo.
Salut Lafter, j'espère que ça va bien.
Ça va et toi?
Bah, écoutez, forcément, je sais que quand j'interviens souvent, j'essaie d'être le plus froid, d'être le plus objectif possible. Je veux dire, je suis un peu à l'école d'Annie Riolo, hein, de biberonner au Daniel. Mais je vais mettre un petit peu de côté cette froideur aujourd'hui. Quel pied, enfin, je veux dire, moi, je suis le foot, voilà, j'ai 20 ans, donc je suis quoi, depuis une dizaine d'années aujourd'hui, à peu près bien. Je peux pas rester de marbre aujourd'hui et essayer d'analyser le match froidement. On a ce qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire et c'est ultra subjectif, hein. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais moi j'ai toujours beaucoup plus vibré devant Lionel Messi que devant Cristiano Ronaldo et je veux pas tomber dans une comparaison, mais je parle vraiment subjectivement moi ce que je dis. Et là, je dis vraiment le joueur qui m'a fait aimer le foot. J'ai le souvenir du but contre le Real en 2011. Moi j'ai vécu ça, j'avais 10 ans, j'ai presque pleuré à l'époque. Évidemment, c'était fou. Ce mec-là, c'est un magicien. Et si vous mettez un fan de magie devant David Copperfield, eh ben, je pense qu'il serait ému. Donc vraiment, c'est le premier point, c'est que au-delà de tout, j'ai envie de profiter de kiffer cette émotion aujourd'hui. Voilà, je le dis, c'est mon premier point. Mais voilà, j'essaie quand même d'analyser ensuite un peu plus froidement tout ça. Il y a une bouillie quand même de football aujourd'hui. Il me pose un problème. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, Daniel parlait des Harlem Globetrotters, c'est toujours un peu le cas depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, moi, je suis frustré parce qu'on voit quand même une équipe de fous, hormis Lionel Messi au début du match, qui n'a pas forcément été capable de produire un jeu incroyable. Alors
ils n'ont pas eu à forcer leur talent non plus.
C'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pas que là. C'est même les matchs d'avant. La patte Pochettino, moi, je veux pas le taper dessus, on va lui laisser du temps. Mais j'ai une petite frustration parce que Di Maria, pour moi, une équipe avec des milieux comme Wijnaldum, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappé, ça doit pas produire ce que ça produit en première mi-temps. Dépendre d'un joueur comme Hakimi. Voilà, mais c'est mon ressenti après ce
match. Non, mais bien sûr, c'est ton ressenti.
On a des joueurs qui sont, non, mais puis on a des joueurs, voilà, je cherche des excuses aussi, qui sont pas en forme. On voit
Neymar
que j'adore, hein, mais ben, on voit clairement qu'il a pas, il est pas prêt
pour jouer.
On a un Verratti qui est pas non plus à 100%, beaucoup de joueurs qui le sont pas. Voilà, il y a beaucoup d'excuses. Mais c'est, voilà, une petite, petite réserve. J'espère que au fur et à mesure du temps, avec des joueurs qui reviennent, ça ira un petit peu mieux. Et permettez-moi de mettre un petit tac comme ça, glisser à la FIFA qui organise 3 matchs internationaux alors que les joueurs viennent juste de revenir d'une compétition et qu'on pour certains presque pas joué. Je trouve que c'est absolument abject pour les joueurs. Voilà, 2 c'était déjà beaucoup, en rajouter 3 en 10 jours, je ne comprends pas
Si tu me permets de te répondre, Mathéo, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Alors, on attend de voir la patte Pochettino. Encore ce soir, je l'ai vu passer. Mais quelle patte Pochettino, les gars. La moitié de l'équipe n'a pas 60 minutes dans les jambes. Voir une patte, c'est quand même très compliqué. Oui. Quand Messi, Neymar...
Assurément, il faudra attendre, c'est sûr.
On pourra attendre. Alors, on va me dire, il est là depuis 6 mois. Mais l'effectif, par rapport aux 6 derniers mois, il n'a eu de cesse que de changer.
Le problème ne va pas être uniquement de savoir... de quelle façon il va jouer, enfin la patte, ce qu'on appelle la patte tactiquement. Bon, de toute façon, on sait plus ou moins ce que ça veut dire, essayer de jouer chez l'adversaire, faire du pressing, récupérer le ballon le plus vite possible.
C'est pas la patte Pochettino, c'est la patte entraîneur moderne.
Exactement.
Oui, voilà.
Bah, c'est exactement ce que tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que je voulais dire. Donc la patte Pochettino, voilà. Pour ça, il faut effectivement que les mecs soient prêts physiquement. Mais il faudra un autre élément qui est en fait le dossier majeur de l'entraîneur qui vient au PSG, quel qu'il soit. C'est vu l'effectif. Avec quel joueur tu le fais, ce truc-là? Quels vont être les titulaires? Si tu dois jouer, si ton intention c'est de faire jouer Messi, Neymar, quel sera l'attaquant qui va offrir de la profondeur? Parce que sans profondeur, aujourd'hui, dans le football moderne, tu fais rien du tout. Donc, si tu perds Mbappé, il te faut l'équivalent, je veux dire, du mec capable de te donner de la profondeur.
Au-delà du fait qu'il faut espérer que... Hakimi te donne de la profondeur.
Ouais, mais il faut quand même un attaquant qui t'emmène un peu, parce que Neymar,
Il est censé pouvoir te donner de la profondeur.
Oui, mais le problème, c'est pas le Neymar de l'époque de Messi au Barça.
Non, on est d'accord.
Il te la donnait la profondeur comme un malade et que l'autre, il lui envoyait des ballons, il cavalait. Parce que maintenant, il fait plus ça.
Ouais. Maintenant, il veut le ballon en numéro 10.
Voilà. Donc, déjà, ça va être un problème. Et puis, le milieu de terrain. Et bon, on en revient, c'était mon point 2. Le milieu de terrain, moi, je sais pas. Pour moi, de toute façon, je vais reprendre les mots de Thierry Henry sur Prime Video, puisqu'on a quand même la chance d'avoir
Nous, on était à l'antenne, du coup, on n'a pas entendu.
Thierry Henry comme consultant, et c'est vrai que il y a la plupart du temps, quand il parle, c'est quand même assez intéressant, enfin même très intéressant, ne soyons pas relatifs. Et il dit, mais de toute façon, et c'est vrai dans à peu près toutes les équipes, il va falloir que le PSG, alors lui, il a fait analogie Barça, parce que c'est facile en ce moment, il va falloir que le PSG, une bonne fois pour toutes, trouve son Busquets. Mais comme le Casemiro du Real, mais c'est ce qu'on dit depuis des années.
Mais ils l'ont déjà, le Busquets.
Et c'est qui?
Non, je plaisante.
Et c'est qui?
Je voulais pas te lancer là-dessus. Pour les supporters parisiens, le Busquets, c'est Marco Verratti.
Le mec devant la défense. Mais il a jamais été Verratti, le mec devant la défense.
Oui,
mais
il est le mec. À la base, pour moi, c'est depuis le début, je pense que c'est son meilleur poste.
Il l'a jamais été. Il va pas l'inventer. Il faut le mec devant la défense. Non, mais même quand il est bon à l'époque, c'est Thiago Motta qui est devant.
Oui, oui.
Donc, en gros, si tu fais pas analogie Busquets, le PSG n'a jamais retrouvé de Thiago Motta.
Oui, oui.
Et ce poste-là, je pense, le seul qui, j'ai l'impression que Pochettino s'est mis ça en tête, c'est Gueye. Que j'ai trouvé excellent ce soir. Je ne sais pas si les gens qui considèrent que ce joueur-là n'a pas de pied, juste le deuxième but.
On l'a dit.
Ce qu'il fait, mais moi je pense qu'il a un pied. Je pense qu'il a un pied.
C'est un des meilleurs joueurs de première ligue.
Je répète que c'est un mec à qui il faut transmettre une confiance parce qu'il a besoin de ça. Et je maintiens que c'est un super joueur. Je l'ai toujours dit.
Je vais te demander un truc. Est-ce que Gueye parle espagnol? Je suis pas sûr. Par exemple. J'ai eu des retours, par exemple, sur certaines périodes de Paris Saint-Germain l'an dernier, ou quand il est arrivé, qu'il était un peu esselé dans le vestiaire.
Non, pas que les autres le mettent de côté, mais quand tu parles pas la langue. Quand t'es pas dans un clan, t'as pas. Mais bon, bref.
Non, mais ça joue, ça, dans la confiance.
À un moment, pour construire le jeu, moi, je veux bien qu'on parle des individualités, tout ce que tu veux, mais à un moment, le jeu, il va falloir qu'il soit construit. Est-ce que Wijnaldum est à sa meilleure place?
Je ne crois pas.
On va dire, oui, mais on va dire que s'il faut construire ce milieu à trois, Gueye, c'est ok. Wijnaldum, je sais pas.
Non, mais on en parlait à la mi-temps avec
tu le mettrais dans un milieu à deux, avec les Pays-Bas, il jouait derrière l'attaquant.
Moi, pour moi, là où il est le meilleur, Jorginho Wijnaldum, aujourd'hui, c'est en tant que joueur qui joue devant la défense.
Mais dans un milieu à deux.
Non, à Liverpool, il jouait en 6 avec un autre joueur. Ils étaient à deux en piston.
Oui, voilà, mais un souvent, peu comme souvent t'as Fabinho, t'avais oui, Fabinho, souvent t'avais
à côté, il est,
t'avais Anderson,
il est jamais seul.
Oui, ok, mais il est jamais seul. C'était, il
non,
était
non, pas seul
dans un milieu à trois.
Mais Fabinho a été souvent absent, et c'est lui qui prenait la place.
Moi, mais donc en fait, ce, là où je voulais en venir, c'est que il faut trouver le positionnement idéal de chaque joueur.
Bon équilibre.
Parce que t'as recruté Wijnaldum, donc il faut quand même le mettre dans de bonnes dispositions. Et finalement, c'est toujours cette zone du terrain là qu'il va falloir, qu'il va falloir améliorer, parce que c'est de là que va venir le jeu.
C'est exactement ça. C'est exactement
parce que
ça.
Si à chaque fois il faut que tu sois sauvé par la balle de Neymar, la balle de Messi ou du neuf qui va venir si Mbappé s'en va. Ce que je rappelle quand même, et il faut pas qu'on s'en rende compte trop tard et surtout au moment où il risque de partir, sur les 2-3 dernières années, le meilleur du PSG, c'est quand même Mbappé, hein.
Bien sûr.
C'est lui contre le Barça. C'est lui, à l'Alliance,
Il y a eu des périodes de moins bien aussi, mais.
Ouais, mais les matchs, les gros matchs, c'est lui. En Coupe d'Europe, c'est souvent lui. Enfin, c'était un joueur absolument clé au PSG sur les dernières années.
Mais il est encore
plus
là.
Plus que Neymar,
peut-être
en tout cas.
Il va rester. Non, mais ce que tu dis, qu'il y a avec ou sans qu'il y ait Mbappé.
Il y a encore du chantier, je veux dire.
Avec ou sans qu'il y ait Mbappé, le plus gros chantier du Paris Saint-Germain. T'as parlé de beaucoup de choses qui sont très justes. Et ça résume un mot. C'est, il faut que le Paris Saint-Germain arrive à trouver un équilibre collectif. Parce que on me parle de Liverpool, on me parle de la patte Klopp, de la patte Guardiola. Mais les mecs, ça fait 5 ans qu'ils sont dans leur club. Bien sûr qu'il y a 5 ans où t'as 80% de l'effectif qui est intact. Eh bien, tu peux travailler avec tes joueurs et au final, bien sûr qu'il se met en place une certaine routine et un équilibre offensif et défensif qui est de plus grande qualité. Il y en a un qui a trouvé un énorme équilibre et qui a fait des choses incroyables en 6 mois. C'est dommage, il n'a pas été entraîneur du... Enfin, si. J'allais parler de Thomas Tuchel. J'allais faire une blague et finalement, j'ai même pas envie de la faire parce que c'est même pas drôle. Tu vois, donc lui, il a réussi avec Chelsea en 6 mois à trouver l'équilibre. Il est resté plus de 2 ans au PSG. Il est parti comme si c'était le pire des entraîneurs. Donc, pour en revenir à Mauricio Pochettino, je ne sais pas s'il trouvera l'équilibre. Je ne sais pas s'il trouvera la bonne formule. Je ne sais pas s'il arrivera à avoir les résultats qui sont escomptés avec le Paris Saint-Germain. Parce que, en effet, il y a beaucoup de profils, des joueurs qui sont similaires. Et il faut trouver les bons ingrédients pour réussir enfin cette recette et aller chercher cette
équipe. Allez, on va parler de Mbappé dans quelques instants. Après ce premier débat là sur le milieu de terrain, je remercie Mathéo 32-16, 2-0 donc pour le PSG à Reims.